Audiolib présente La Petite Roque de Guy de Maupassant, lu par Evelyne Bouix. Cet enregistrement, réalisé en 1992, a été remasterisé en 2020 par les éditions Audiolib. Première partie.
Le piéton, Médéric Rompel, que les gens du pays appelaient familièrement Médéri, partit à l'heure ordinaire de la maison de poste de Rouy-le-Thor. Ayant traversé la petite ville de son grand pas d'ancien troupier, il coupa d'abord les prairies de Vilhomme pour gagner le bord de la Brindille, qui le conduisait en suivant l'eau au village de Carvelin où commençait sa distribution. Il allait vite le long de l'étroite rivière qui moussait, grognait, bouillonnait et filait dans son lit d'herbe sous une voûte de saule. Les grosses pierres, arrêtant le cours, avaient autour d'elles un bourrelet d'eau, une sorte de cravate terminée en nœud d'écume. Par places, c'étaient des cascades d'un pied, souvent invisibles, qui faisaient sous les feuilles, sous les lianes, sous un toit de verdure, un gros bruit colère et doux. Puis plus loin, les berges s'élargissant, on rencontrait un petit lac paisible où nageaient des truites parmi toute cette chevelure verte qui ondoie au fond des ruisseaux calmes. Médéric allait toujours sans rien voir et ne songeait qu'à ceci. « Ma première lettre est pour la maison Poivron. Puis j'en ai une autre pour M. Renardet. Faut donc que je traverse la futaie. » Sa blouse bleue, serrée à la taille par une ceinture de cuir noir, passait d'un train rapide et régulier sur la haie verte des saules. Et sa canne, un fort bâton de houx, marchait à son côté du même mouvement que ses jambes. Donc, il franchit la brindille sur un pont fait d'un seul arbre, jeté un bord à l'autre, ayant pour unique rampe une corde portée par deux piquets enfoncés dans les berges. La futaie appartenant à M. Renardet, maire de Carvelin et le plus gros propriétaire du lieu, était une sorte de bois d'arbre antique, énorme, droit comme des colonnes et s'étendant sur une demi-lieue de longueur sur la rive gauche du ruisseau qui servait de limite à cette immense voûte de feuillage. Le long de l'eau, de grands arbustes avaient poussé, chauffés par le soleil. Mais sous la futaie, on ne trouvait rien que de la mousse épaisse, douce et molle qui répandait dans l'air stagnant une odeur légère de moisie et de branches mortes. Médéric ralentit le pas, ôta son képi noir orné d'un galon rouge et s'essuya le front. Car il faisait déjà chaud dans les prairies, bien qu'il ne fût pas encore 8 heures du matin. Il venait de se recouvrir et de reprendre son pas accéléré quand il aperçut au pied d'un arbre un couteau, un petit couteau d'enfant. Comme il le ramassait, il découvrit encore un dé à coudre, puis un étui à aiguille 2 pas plus loin. Ayant pris ces objets, il pensa « Je vais aller confier à monsieur le maire ». Il se remit en route, mais il ouvrait l'œil à présent, s'attendant toujours à trouver autre chose. Soudain, il s'arrêta net, comme s'il se fût heurté contre une barre de bois. Car à 10 pas devant lui, gisait, étendu sur le dos, un corps d'enfant tout nu sur la mousse. C'était une petite fille d'une 12aine d'années. Elle avait les bras ouverts, les jambes écartées, la face couverte d'un mouchoir. Un peu de sang maculait ses cuisses. Médéric se mit à avancer sur la pointe des pieds, comme s'il eût craint de faire du bruit, redouté quelque danger. Et il écarquillait les yeux. Qu'était-ce que cela ? Elle dormait sans doute. Puis il réfléchit qu'on ne dort pas ainsi tout nu à 7h30 du matin sous des arbres frais. Alors elle était morte ? Il se trouvait en présence d'un crime ? À cette idée, un frisson froid lui courut dans les reins, bien qu'il fût un ancien soldat. Et puis c'était chose si rare dans ce pays, un meurtre, et le meurtre d'une enfant encore, qu'il n'en pouvait croire ses yeux. Mais elle ne portait aucune blessure, rien que ce sang figé sur sa jambe. Comment donc l'avait-on tué ? Il s'était arrêté tout près d'elle et il la regardait appuyée sur son bâton. Certes, il la connaissait puisqu'il connaissait tous les habitants de la contrée. Mais ne pouvant voir son visage, il ne pouvait deviner son nom. Il se pencha pour ôter le mouchoir qui lui couvrait la face, puis s'arrêta la main tendue, retenue par une réflexion. Avait-il le droit de déranger quelque chose à l'état du cadavre avant les constatations de la justice ? Il se figurait la justice comme une espèce de général à qui rien n'échappe et qui attache autant d'importance à un bouton perdu qu'à un coup de couteau dans le ventre. Sous ce mouchoir, on trouverait peut-être une preuve capitale. C'était une pièce à conviction, enfin, qui pouvait perdre de sa valeur, touchée par une main maladroite. Alors, il se releva pour courir chez Monsieur le maire. Mais une autre pensée le retint de nouveau. Si la fillette était encore vivante, par hasard, il ne pouvait pas l'abandonner ainsi. Il se mit à genoux tout doucement.